tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Cela nous est arrivé à tous. Vous êtes le propriétaire d'un objet, souvent électronique, vous en prenez bien soin, vous l'utilisez correctement. Et au bout d'un laps de temps assez court, 2 ans, 3 ans, cet appareil vous lâche, il tombe en panne. Il ne s'allume plus malgré tous vos soins. Vous l'apportez au magasin dans l'espoir qu'on vous le rallume en 2 temps, 3 mouvements. Et à la place, on vous propose d'en racheter un nouveau avec de nouvelles fonctions. Vous n'avez pas le choix parce que, on vous l'assure, votre appareil est dépassé. Vous êtes carrément suspecté d'habiter dans une grotte à l'écart de la société pour avoir encore sur vous un modèle aussi ancien. Pensez donc toutes les nouveautés qui sont arrivées sur le marché depuis ces interminables 48 mois. Bref, vous achetez un nouvel appareil et il n'y a plus qu'à attendre pas très longtemps en général que l'histoire se répète avec un autre appareil, parce qu'évidemment vous n'habitez pas dans une grotte et que vous avez plusieurs appareils. Voici résumé l'obsolescence programmée, quelque chose d'assez désagréable pour nous consommateurs, un phénomène contre lequel nous nous sentons passablement impuissants, qui a encore les compétences aujourd'hui pour réparer parfois des choses très simples. Et pourtant, on peut contrecarrer cette logique, du moins en partie, c'est ce que pense très fort notre invité ce matin, Lucien Vimin. Bonjour.
Bonjour.
Lucien Vimin, merci d'être avec nous ce matin en direct dans Tribu.
Merci à vous.
Alors comment vous présentez? On va commencer par dire que vous êtes l'auteur de ce livre notamment, Fonce Alphonse, croissance, décroissance, sortons de l'impasse. C'est paru aux éditions J'ai d'encre. C'est un petit opuscule qui suit un premier qui s'appelle En voiture Simone, même édition, qui s'est pas mal vendu, plus de 2500 exemplaires, ça c'est le deuxième. On va dire que vous êtes banquier de formation, hein, vous avez en fait eu plusieurs vies avant aujourd'hui, vous avez aujourd'hui 47 ans, banquier de formation, vous avez été directeur des achats dans le monde de l'horlogerie, vous êtes chaudefonnier d'origine jurassienne, vous y tenez, vous me l'avez dit, et puis ensuite vous avez fait une carrière dans l'immobilier. On peut dire comme ça, vous avez réussi, puisqu'à 40 ans vous prenez votre retraite. Vous avez les moyens de prendre votre retraite et de vous consacrer à une forme de bénévolat on va essayer d'en parler ce matin, hein, justement, qui est de faire passer certaines idées, notamment à travers ces petits ouvrages. Vous êtes le créateur d'un réseau social qui s'appelle La Chaussure Rouge, on y viendra tout à l'heure. En deux mots, comment est-ce qu'on peut résumer La Chaussure Rouge?
Alors La Chaussure Rouge, c'est un réseau social physique des gens qui ont décidé de prendre soin de la vie.
Physique, mais on le trouve sur Internet. Hein.
On le trouve sur Internet, mais on se croise dans la rue. C'est ça qui est intéressant. Très belle rencontre, d'ailleurs.
On va y venir tout à l'heure. Si vous le voulez bien, j'ai un peu résumé vos vies précédentes, c'est juste,
ouais,
vous
parfait,
avez quelque chose à rajouter.
Ouais. Non, rien du tout. Ça va très bien.
Lucien Vimin, revenons à notre appareil qui tombe en panne très rapidement. Effectivement, je crois qu'on a tous fait l'expérience de se dire, ça y est, c'est déjà en panne, et on se retrouve avec un nouvel appareil qui ne coûte pas forcément très cher. Enfin, voilà, on en rachète. Vous nous dites qu'il faut les réparer. Alors, vous n'êtes pas le premier à le dire, hein, mais là, vous lancez vraiment, et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans cet opuscule, il faut carrément changer tout un système. Cela dit, réparer un objet, il faut pouvoir le faire.
Effectivement, et c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant, certaines fois, hein, pour trouver la personne qui veut bien réparer. Moi, j'ai une histoire, par exemple, avec une machine à café, que j'utilisais très peu, c'était lorsque j'étais encore actif dans le monde de l'immobilier. Et je vais amener la machine à café, qui était une Francy, qui avait un design assez sympa. Je vais l'amener pour la réparation et on l'envoie à Zurich auprès du réparateur. On reçoit un devis en disant, ben voilà, cette machine n'est pas réparable, on vous offre une nouvelle machine, au lieu de 600 francs, elle sera 400 francs, donc c'est une bonne affaire. Pour une machine. Bon, ok, moi je retourne au magasin, je dis, écoutez, est-ce qu'on peut vraiment pas la réparer? Est-ce qu'on pourrait insister un petit coup? Alors la dame retéléphone, rebelote. Et j'ai dit, écoutez, je peux avoir le numéro de téléphone de la personne qui vous dit ça? Elle me donne son numéro de téléphone, je l'appelle. Et puis il m'a dit, oui, alors j'ai regardé, ouais, effectivement, non, c'est une machine qui est beaucoup trop vieille, ça vaut pas la peine, je vous ai fait une belle offre. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que c'est réparable ou pas? Ben écoutez, il y a une pièce qui est cassée. J'ai dit, est-ce que cette pièce, est-ce qu'on peut la changer? Il me dit, oui, on peut la changer. J'ai dit, mais alors, changez-moi cette pièce, vous m'envoyez cette machine. Non, mais ça va vous coûter cher, ça va vous coûter environ 180 francs, ça vaut pas la peine sans cette machine. J'ai dit, écoutez, prenez cette pièce, vous la mettez sur cette machine, vous l'envoyez, je paye 180 francs. Et c'est vrai que dans un premier temps comme ça, on pourrait imaginer que ça coûte cher la réparation. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà, la personne qui proposait ça ne m'a pas demandé comment j'utilisais la machine, si je faisais beaucoup le nombre de cafés que je tirais, pourquoi cette machine était aussi pour moi importante, elle avait un aspect particulier. Et puis surtout, on me fait penser que c'est trop cher, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que 3-4 ans plus tard, avant que je remette l'ordre de la société, cette machine fonctionnait toujours et j'avais sorti de mon porte-monnaie que 180 francs. Et non pas 400 francs.
Donc c'était moins cher.
Effectivement.
Alors là, c'est un exemple assez simple, parce que une machine à café, on peut imaginer que c'est quand même encore très mécanique, on va dire. Maintenant, il y a plein de machines, d'appareils, de toutes sortes électroménagers ou autres, ou des gadgets électroniques qui ont des composants électroniques. Et alors là, c'est plus compliqué.
Plus compliqué, à première vue, oui, mais il y a des professionnels qui savent faire cela. Il suffit d'aller voyager en Afrique et vous allez voir qu'en Afrique, les Africains savent réparer nos appareils électroniques et c'est impressionnant ce qu'ils savent faire. Donc c'est un exemple pour nous, en fait. Et je dirais qu'actuellement, si on fait quelques recherches sur Internet, on trouve des réparateurs d'iPhone, d'iPod, de tous ces d'ordinateurs et autres. Et ça commence à venir. Simplement, maintenant, il faudrait pouvoir vraiment renforcer cela. Renforcer cette vision de ce rapport à l'objet-là, cette vision-là de l'économie, parce qu'il y a une réelle économie à faire à travers
Pour l'instant, c'est un peu les, comment on dit, les early adopters, ceux qui cherchent vraiment un peu comme vous. Vous avez insisté, vous êtes allé contre une espèce de vague. On vous disait, ben non, allez-y, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se battre un tout petit peu. Il faut aller dans des ateliers particuliers. Il faut chercher sur Internet. C'est encore trop compliqué.
Alors, je dirais pas aller contre ni se battre. Disons, c'est vraiment essayer de travailler avec et œuvrer pour. C'est ça plutôt. Mais disons que effectivement, bon, aujourd'hui, par exemple, la chaussuresrouge.ch, c'est sur le site, on a mis un petit, il y a un petit sigle là qui permet de trouver les réparateurs, ça facilite la vie aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a la FRC, je sais qu'ils ont aussi quelque chose en vue sur leur site. On a aussi la ville de Genève qui aujourd'hui met en place répargenève.ch. C'est vrai, donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y a la possibilité de le faire. Simplement, il faut simplement, si on peut faciliter l'accès aux différents consommateurs, c'est clair que ça pourra prendre l'essentiel. Mais ça ne suffira pas. Je crois qu'il faut des instruments politiques, économiques qui nous permettent vraiment d'aller dans ce sens-là.
On va en parler d'ailleurs. Ça, c'est les exemples un peu citoyens ou effectivement certaines collectivités publiques qui mettent en place des choses. D'ailleurs, vous-même, vous mettiez en place des ateliers de réparation. On y viendra aussi tout à l'heure où les gens peuvent se rencontrer, échanger éventuellement, voire réparer. Sur le fond, toujours, parfois, c'est quand même énergétiquement mieux de remplacer, par exemple, prenons de vieux frigos qui consomment pas mal, qui fonctionnent toujours. C'est froid, on ouvre le frigo, le fromage est bien gardé, les yogourts aussi. Malgré tout, ça consomme plus d'énergie que, parfois beaucoup plus d'énergie que les tout nouveaux modèles. Et certaines collectivités publiques, c'est le cas par exemple de la ville de Lausanne, dit aux commerçants, échangez, venez remplacer vos vieux frigos par des nouveaux et au final, il y aura une économie d'énergie assez importante. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Alors le frigo, c'est vraiment l'exemple le plus discutable par rapport à ça. Il y a bien d'autres objets, vous avez pris le bon objet pour me piéger. Je dirais, il y a d'autres objets qui consomment aussi l'énergie, mais qui n'ont pas un ratio aussi important que celui du frigo. Je dirais, ce que je dis là, c'est qu'on a une tendance fâcheuse actuellement, c'est de réduire l'écologie à une notion de dépense énergétique. Alors que l'écologie, dans son sens large du mot, c'est vraiment la vie, le vivant. Et dès le moment où on met cette notion du vivant dans l'aspect écologique, dans mes choix écologiques, à ce moment-là, je dois m'extraire de notre frontière helvétique pour pouvoir aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la planète.
Donc tu ne dois pas faire juste le bilan de l'énergie consommée en Suisse par un appareil, par exemple.
Ceci rétrécit l'esprit, en fait, parce qu'on regarde comment on essaie d'améliorer des choses ici, mais sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir améliorer des choses ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque fois que je fabrique un objet, il n'y a pas que l'énergie. Il y a l'énergie consommée ici, il y a aussi l'énergie grise, donc l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer l'objet. Mais en plus de l'énergie grise, parce qu'on reste toujours que dans l'énergie, il y a la pollution chimique. C'est-à-dire que pour fabriquer un objet, avec les synthétiques qu'on a inventés et autres, ou même les alliages d'acier, etc., on a besoin de pollution chimique. Et plus on fabrique, plus on envoie de la chimie dans les sols, dans les mers et dans les airs. Et ça, c'est une pollution qui est vraiment nocive pour le vivant. C'est une pollution qui tue le vivant.
Vous critiquez d'ailleurs dans votre livre Fonce Alphonse, vous critiquez les éco-bilans. Peut-être en un mot, on peut dire ce que c'est un éco-bilan. C'est un bilan qui permet d'évaluer l'impact écologique de la fabrication d'un produit, l'utilisation et l'élimination. Donc c'est un peu tout le cycle de vie, on va dire. A priori, c'est plutôt une bonne chose de faire ces éco-bilans.
Alors je ne critique pas, mais juste un état de fait. En fait, simplement de se poser la question, de se dire est-ce que on peut réellement créer un bilan quantitatif permettant d'évaluer l'impact écologique de la fabrication et l'utilisation et l'élimination d'un produit industriel. Et là, je pose la question, deux questions que je pose.
Vous mettez en doute, en fin de compte.
Totalement, c'est ça, c'est se remettre en question. D'ailleurs, ces petits livres-là sont là pour ça, ce sont des interpellations citoyennes qui nous permettent de sortir des idées reçues pour vraiment élargir sa vision d'ensemble et pouvoir vraiment pouvoir redevenir acteur plutôt que suiveur, et simplement, plutôt que de prendre simplement ce qu'on nous dit, c'est de pouvoir réfléchir par soi-même. Et là, la question que je pose par rapport à définition de l'éco-bilan, c'est de dire, alors, OK, bilan quantitatif permettant d'évaluer l'impact écologique de la fabrication, l'utilisation et l'élimination d'un produit. J'ai alors une question. Lors de l'extraction d'un minerai, par exemple, comment est-il possible d'évaluer quantitativement l'impact écologique de la déforestation du poumon terrestre amazonien? C'est-à-dire avec toutes les conséquences en chaîne qui en résultent, telles que la...
Ils ne sont pas assez complets, quelque part, ces éco-bilans. Ben il faudrait qu'ils prennent en compte d'autres...
Oui, parce que, voyez, vous allez, pour aller chercher, par exemple, d'aluminium, vous allez déforester des forêts amazoniennes. On va tuer la vie d'abord, la vie végétale, puis ensuite la vie animale, pour arriver au bauxite qu'on devra extraire, pour ensuite qu'on va aussi traiter chimiquement pour pouvoir en tirer l'aluminium. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, on tue la vie et on a des besoins chimiques pour créer ces alliages. Et tout ceci, c'est de la pollution qui tue le vivant. Et comment vous voulez calculer ça? Comment voulez-vous calculer par le chiffre ceci? C'est pas possible, parce qu'on est dans le vivant. Ensuite,
qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas les faire?
Je dirais qu'il faut surtout ralentir. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas tous se retrouver avec des peaux de bête sur le dos à garder des chèvres en montagne, c'est bien clair. Mais je crois qu'entre ne rien faire et agir, il y a de beaux chemins de traverse. Et je dirais qu'aujourd'hui, simplement, quand on a la possibilité de réparer un objet, il s'agit mieux de réparer que de le changer. Mmh. Et juste, surtout, c'est de réfléchir plus large, c'est de mettre la notion du vivant lorsqu'on parle d'écologie. Ça, c'est fondamental.
Alors ça, c'est fondamental. Et vous dites précisément, on va prendre le sous-titre de votre ouvrage, Croissance, décroissance, sortons de l'impasse. Vous êtes ni pour ni contre l'un et l'autre. Vous étiez dans le monde économique. Vous savez que le mot croissance, tout le monde l'a un petit peu sur toutes les lèvres. Prenons par exemple, peut-être un peu moins en Suisse, quoique, parce qu'ici, on a un taux de chômage qui est relativement faible. Mais si on regarde la France, tout le monde attend la croissance, le retour de la croissance pour, si possible, en tout cas à court terme, voir le chômage baisser. Donc là, on voit qu'il y a un gros trend sur la croissance. Les gens y croient, pensent que c'est une solution. Et puis la décroissance, évidemment, il y a tous ceux qui se battent pour la décroissance. On connaît aussi leur théorie. Vous vous dites qu'il y a une troisième voie.
Oui, effectivement. Donc, juste déjà, prendre acte de quelque chose, c'est que la croissance du PIB, ça équivaut à la décroissance de la vie sur Terre. Ça, c'est fondamental de connaître ça aussi, d'avoir compris ça. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, le problème majeur que nous avons, c'est un problème de compréhension. Non pas que le public et la population soient idiotes ou stupides, loin de là, mais simplement la manière à laquelle on parle écologie, les messages écologiques sont complètement biaisés.
C'est-à-dire?
Ils ne sont pas complets. Simplement, on réduit à la question énergétique, à une dépense énergétique. On ne va pas avoir la notion du vivant. Dès le moment où on met la notion du vivant dans notre approche, tout devient très clair, en fait. Le problème, ce n'est pas tant savoir comment est-ce que je vais compenser l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer l'objet, mais c'est de comprendre que la pollution chimique que je renvoie dans les sols, les mers ou les airs, celle-ci n'est ni compensable par l'objet, par l'utilisation de l'objet, ni remédiable. Une fois que c'est lancé, que c'est mis dans les sols, c'est dans les sols. On ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est une compréhension très importante qui nous permet de sortir d'un esprit de clocher et surtout sortir, en fait, d'une écologie de surface. Et on le voit, si on regarde nos programmes politiques, c'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est pas compris actuellement, nos programmes politiques tiennent compte principalement de l'énergie.
On se focalise beaucoup trop sur l'énergie. Pourtant, vous en parlez pratiquement unique. Enfin, vous en parlez beaucoup, vous aussi, de l'énergie dans cet ouvrage. C'est là-dessus que vous focalisez également.
Attention, le premier, on va forcément parler de l'énergie grise, c'est-à-dire d'ouvrir déjà les esprits dans un premier stade sur l'énergie qui se passe ailleurs, les besoins. Et dans un second temps, c'est de pouvoir encore aller rajouter une couche, pour aller vraiment vers quelque chose qui n'est plus possible de discuter. Mais vous voyez, quand je me dis pas facile pour le public de s'y retrouver par rapport à ces messages tronqués. J'ai ici un exemple qui est le journal que reçoit une édition spéciale de Suisse Énergie. C'est une édition spéciale que reçoivent tous les propriétaires en octobre de chaque année. On ouvre la troisième page, on a Madame Loïtard qui nous dit « Le programme Suisse Énergie, important composant de la nouvelle politique énergétique, vous informe et vous conseille pour vous permettre de prendre de bonnes décisions tant sur le plan énergique que financier. » Et quand on continue à tourner les pages, on retrouve tout à coup, paf, une page pleine interdiscount avec des téléviseurs, des machines à café, un laveur d'air.
Donc c'est une page de publicité qui a financé.
Effectivement, et on nous dit changer pour économiser. Et on met le logo Énergie D12 auprès de l'interdiscount. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on va plus loin. On retrouve aussi interdiscount, mais on trouve aussi.
Voilà, comme ça, ils seront contents, on les aura bien cités.
Et ce qui se passe, c'est intéressant aussi, en page 4 de couverture, on retrouve Mediamarkt. Ouais. Parce que je ne suis pas fou. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met que Mediamarkt est partenaire d'or d'Énergie D13. Donc imaginez-vous, comment voulez-vous que le public s'y retrouve là-dedans? C'est pas possible.
Lucien Vimin, bah vous êtes avec nous jusqu'à 11h30. On va continuer à parler avec vous de ces questions énergétiques. Vous prenez les petits gestes, vous, on y reviendra aussi pour changer des choses un peu plus grandes. C'est ce que nous explique Benabar avec l'effet papillon.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papilles,
à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon, c'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, tout bas.
L'effet papillon, Benabar. Nous sommes avec vous, Lucien Vimin, auteur de cet ouvrage Fonce Alphonse, croissance, décroissance, sortons de la passe, c'est paru aux éditions J'ai d'encre. Et puis, tribu, émission interactive, pour la première fois, parce qu'on a reçu des messages pendant la chanson, via notre compte Twitter. C'est l'ancien président des Verts lausannois, Vincent Rossi, qui nous informe, qui dit, qui nous écoute, il dit, pour info, concernant les éco-bilans, on utilise des méthodes pour mesurer la perte de vie, type amazonienne, c'est ce que vous dites. Que M. Vimin s'informe, c'est ce qu'il dit, il faut que vous informiez ça. Ça s'appelle pdf.mcarré.an et la principale cause de la perte de la biodiversité n'est pas l'aluminium que vous évoquez ici dans votre livre, mais la nourriture. On va vous mettre en contact, comme ça vous pourrez...
Volontiers, qui m'appelle, qu'on en discute. Ouais. Je crois que c'est de poser la question, comment peut-on calculer, comment peut-on chiffrer la perte de vie sur Terre? Comment peut-on chiffrer la pollution qui entre dans les mers, les océans, dans les terres et le ciel. J'aimerais qu'on puisse m'expliquer ça.
Alors, c'est
des choses
qui
sont pas remédiables. C'est pas, on peut, là, on est en train de réduire, on est en train de réduire la vie, le vivant, la notion du vivant à une affaire arithmétique.
On va vous mettre en contact avec Vincent Rossi.
Il y a peut-être une dimension qui n'est pas encore comprise.
On va voir tout ça. On pourra donner peut-être une suite dans un autre tribut. On va revenir à ce que vous proposez. C'est une croissance économique de remplacement. Alors, on en revient à la réparation. Concrètement, comment ça pourrait se passer? Ça veut dire que, admettons que la société décide de réparer de plus en plus, que tout le monde est d'accord, il faut réparer, on arrête avec cette obsolescence programmée. On oblige d'ailleurs l'Europe, essaye de légiférer là-dessus, en tout cas d'interdire l'obsolescence programmée. Comment ça va se passer? Il va y avoir plein de petits ateliers où on pourra aller réparer son iPhone, sa machine à café, son téléphone, etc.
Alors avant que ça se passe, il faut déjà peut-être offrir des outils politiques ou économiques qui permettent de favoriser ces éléments-là. Je crois que ce qui est bien important de comprendre déjà, c'est que chaque fois que l'on fabrique un objet, automatiquement, de l'autre côté de la planète, on péjore la vie. Ça, c'est irrémédiable. On ne peut pas...
L'effet papillon.
C'est tout à fait. Ensuite, donc, le problème ne vient pas tant de savoir combien je vais économiser en achetant un nouvel objet, c'est de savoir c'est de dire ok, c'est une question de quantité, parce que plus je produis pour faire des objets qui soient moins qui consomment moins, plus je vais envoyer de chimie dans les sols. Donc c'est à partir de là, c'est-à-dire comment peut-on ralentir cette croissance économique, c'est ça. Ralentir la croissance économique sans créer la rupture.
Oui, parce que vous êtes, on le dit, vous venez du monde économique, donc vous n'êtes pas pour une décroissance où vous voulez pas que tout s'arrête d'un seul coup, vous voulez une forme de transition.
C'est-à-dire que c'est vrai que, sur le long terme, il faudrait bien décroître. On est condamné à cela, ça c'est clair. Mais seulement, si ça se fait de manière trop abrupte, je pense que nous ne sommes pas prêts pour l'instant, dans le cadre de l'esprit humain, on est sûrement encore assez agressif dans notre manière de fonctionner. Je crois qu'on doit vraiment préparer l'esprit humain à un changement plus fondamental et essayer d'y aller par étapes, pour autant qu'on ait le temps de le faire. Et je dirais que là, c'est de favoriser la réparation. Une bonne manière de ralentir notre économie, tout en préservant de l'emploi, en créant de nouveaux emplois, c'est la réparation.
Mais comment est-ce qu'on crée des emplois? Parce que si on arrête de produire, des gens vont se retrouver au chômage. Ça veut dire qu'ils vont être réengagés dans la réparation? Ça va fournir
Ce qu'il faut voir déjà, première chose, la réparation est intéressante à plusieurs points de vue. Dans le sens, première chose, c'est une économie qui est moins agressive pour le vivant. Ça, c'est fondamental. Ensuite, seconde chose, c'est qu'on va pouvoir créer des entreprises. Il y aura des créations d'entreprises de réparation. Donc, c'est des emplois qui sont locaux. Ce qui est intéressant aussi avec la réparation, c'est qu'on va redonner de la valeur à l'intelligence manuelle.
On va peut-être détruire des emplois qui sont à l'autre bout de la planète, mais qui servent quand même à faire vivre des gens.
Oui, ou des gens qui sont exploités, peut-être pour faire nos objets à bon marché ici. Peut-être bien aussi. Donc il y aura un ralentissement peut-être pour les pays qui sont en voie de développement maintenant, mais c'est un ralentissement bienvenu pour eux et pour nous. Et bon, sur le plan économique uniquement, je reviens là-dessus, je réponds là-dessus si vous me permettez. Donc l'idée c'est ça. Alors, l'intelligence manuelle est très importante parce qu'on a beaucoup de jeunes actuellement qui sortent d'écoles, qui sont un peu sur le fossé, à côté là-bas. Ils sont nés sur cette terre avec l'intelligence manuelle. Et aujourd'hui, la société d'aujourd'hui ne valorise pas l'intelligence manuelle. On est tous sur l'intellect. Et ça, je pense que c'est important de tenir compte de tous ces êtres humains qui arrivent sur cette terre, qui ont cette intelligence-là à offrir à la collectivité.
En Suisse, on favorise relativement assez
maintenant,
bien
on l'apprentissage. On y revient depuis quelques années. Mais il fut un temps où l'apprentissage était mis de côté. Ensuite de quoi, on favorisera aussi des entreprises de seconde main. Donc là aussi, favoriser des objets d'occasion, l'achat d'objets d'occasion. Avec ça, on va aussi inviter les gens, la population, à acheter de la qualité réparable. Ce qui veut dire que ça peut avoir une incidence. C'est-à-dire que les objets que l'on va fabriquer, plutôt que mettre l'intelligence humaine aujourd'hui à trouver des solutions pour que les objets s'usent plus vite, on pourra utiliser l'intelligence humaine à faire de la qualité réparable. Ce qui veut dire qu'on peut même voir l'obsolescence programmée se casser le bout du nez, fait, à un moment donné.
On achètera plus cher, mais ça durera beaucoup
longtemps. Et comme on en achètera moins, tout ce qu'on n'achète pas, tous les gadgets qu'on n'achètera plus, permettront d'avoir de l'économie pour acheter des objets de meilleure qualité et qui soient réparables. Et conceptualiser réparables à la conception. Ensuite de quoi, on peut aussi induire que ce qui est intéressant, c'est que selon ce qui est proposé là au niveau de ce petit bouquin qui est la consigne énergie grise, c'est qu'avec ça, on pourra aussi cultiver au sein de du collectif l'énergie grise sera connue de tous, de manière très rapide. C'est-à-dire qu'on ouvrira nos écoutilles sur le monde et non plus sur ce qui se passe sous le ciel helvétique. Et ça, c'est important, vraiment important.
Merci beaucoup, Lucien Veillon. On va pas pouvoir développer absolument tout. C'est clair que c'est très complexe. Ceux qui voudraient poursuivre et en savoir beaucoup plus, eh bien, il faut qu'ils se procurent Fonce Alphonse, Croissance, décroissance, sortons de l'impasse. C'est le deuxième, c'est une petite collection qui est en train de naître, hein, puisqu'il y a En voiture Simone qui parlait un peu plus des véhicules, qui s'est bien vendu. Celui-ci vient de sortir. C'est illustré par Mix et Remix, toujours avec beaucoup d'humour. On vous remercie d'avoir été ce matin avec nous. Et puis, on va vous mettre en contact avec l'ancien président du Vernon.
Voilà,
il y a un dialogue
qu'on
qui est amorcé.
On puisse se comprendre, c'est important de se comprendre.
Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous.
Merci à Jessica Amar qui était à la technique ce matin, à Céline Zuffray qui est l'assistante de production de cette émission, à Karine Viamot qui est notre programmatrice musicale. Et puis, je vous retrouve demain, on va parler des 10 ans de YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, à demain.
Infotrafic RTS.
Et une information concernant l'école, nous sommes toujours à l'antenne, l'école du Nufenen et du Grimsel sont rouverts. Voilà, excellente journée.